10h07, ça y est, c'est l'heure de retrouver Service Public avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Aurélie, vous avez rêvé de quoi cette nuit, vous Aurélie?
De papillons, de fleurs et de roses.
Pas de train qui arrive à l'heure, non? Je pensais que les journalistes rêvaient de ça.
Non, on s'apaise le soir quand même.
Vous n'allez pas dormir là, vous revenez à 11h de toute façon pour une autre page d'information. À tout à l'heure Aurélie, et certains jours on n'a pas envie de se réveiller, pas seulement pour continuer à dormir, mais aussi et surtout pour continuer à rêver. Que signifient nos rêves? Sait-on aujourd'hui à quoi ils servent et surtout comment on peut les interpréter? Nous attendons vos questions, éveillées ou pas, au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr, et sur les réseaux sociaux, nous sommes Service Public FI. Aujourd'hui, la meilleure manière de conférer une large audience à une information, c'est de la censurer. Illustration de cette règle, un sondage commandé par Le Parisien Magazine, un sondage posant une question simple. Quel homme politique ferait mieux que François Hollande? Une question simple et une réponse inattendue. 56% des sondés ont répondu non pas Nicolas Sarkozy, non pas Manuel Valls, mais Dominique Strauss-Kahn. Oui, vous avez bien entendu, d'après un sondage BVA, 56% des sondés pensent que DSK ferait un meilleur président que François Hollande. 56% des Français préfèrent la normale au normal. Première surprise donc, ce résultat. Seconde surprise, Le Parisien décide de ne pas publier ce sondage, arguant de problèmes méthodologiques. Un journal qui décide de ne pas publier un sondage pour des raisons méthodologiques, c'est un peu comme un pâtissier qui refuserait de vendre un gâteau parce que celui-ci peut faire grossir. Alors comment expliquer que Le Parisien ait décidé de ne pas publier ce résultat? Peut-être parce que Le Parisien ne voulait pas qu'on l'associe avec DSK, qu'on lui impute la responsabilité du retour de la bête, du retour du monstre. Et ces 56% de sondés, pourquoi ont-ils choisi DSK? Eh bien peut-être précisément parce qu'à leurs yeux, DSK est un monstre. À force de répéter aux Français que la situation de la France est monstrueuse, nos compatriotes se sont peut-être persuadés qu'il leur fallait un être déviant, hors norme, pris à pic de la tête et du reste, trop doté en tout pour les gouverner. Les anthropologues connaissent bien ces tribus qui n'acceptent d'être gouvernées que par des chefs mi-hommes, mi-bêtes. Chez James Fraser, par exemple, un grand anthropologue anglais du siècle dernier, le roi est à la fois saint et tabou, divin et impur. Jadis, quand la France allait bien, on pouvait essayer d'être élu en disant comme VGE « Il faut un président à la France ». Maintenant que tout va mal, mieux vaudrait dire « Il faut un président monstrueux à la France ». Et en conclusion de l'émission dans le Grand Bazar, Alexandre Lazerge, notre homme objet journaliste à GQ, vous présentera une lampe à rêve. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, vous le saurez dans une cinquantaine de minutes.
Maître des ténèbres, aide-moi maintenant à découvrir cet objet merveilleux. Cette lampe merveilleuse qui possède tous les pouvoirs, qui commande aux grands génies de la terre, de l'air, des ondes et du feu. Maître des ténèbres, révèle-moi l'endroit où je puis trouver cette lampe magique.
Écoute-moi, je vais te dévoiler le secret.
Et toi, houhou.
Quant à Serge Effèze, il reviendra tout à l'heure dans son mot du psy sur le triomphe de Guillaume Gallienne avec son film Guillaume et les garçons à table au récent César.
Vous aviez voté pour qui? Pour vous? Pour lui?
Non, j'ai voté pour moi. Oh non, mais non, mais je cache.
Oh bah oui, bah oui. Non, mais,
ça suffit.
Non, en revanche, meilleur acteur. Meilleur acteur, j'ai voté pour Grégory Gadebois.
Mais dans l'immédiat, voici la nouvelle interprétation des rêves.
Moi, je ne rêve jamais.
Tout le monde rêve. Partout. Seulement certains ne veulent pas se souvenir de leurs rêves. C'est tout.
Quand j'étais enfant, je faisais un rêve. Toujours le même. Je me promenais à bicyclette dans un jardin. Et arrivé à un bout, là, le jardin basculait. J'essayais de remonter de l'autre côté. Et là, de nouveau, le jardin basculait. Là, je me réveillais.
Service public, Guillaume Erner.
Contrairement à ce que chantait Bachung, il n'y a pas que Madame qui rêve. Alors où en sommes-nous de l'interprétation des rêves aujourd'hui? Je suis entouré de trois spécialistes que je vous présente immédiatement. Tout d'abord, Serge Effez qui nous accompagne tous les mercredis. Bonjour Serge.
Bonjour.
À côté de vous se trouve Jean-Paul Tassin. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Tassin, vous êtes neurobiologiste, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous venez de publier avec Serge Tisseron les 100 mots du rêve aux presses universitaires de France et dans la collection Que sais-je. En face de vous se trouve Christiane Riedel. Bonjour Christiane Riedel, vous êtes
Bonjour.
Spécialiste de l'interprétation des rêves, vous avez fondé l'Académie d'interprétation des rêves et vous avez notamment publié deux ouvrages, Amour et sexe dans vos rêves, aux éditions Trajectoire et Rêves à vivre, manuel pratique et spirituel d'interprétation des rêves aux éditions de Mortagne. Alors puisque je suis entouré de trois spécialistes, je vais en profiter. Cette nuit, figurez-vous que j'ai rêvé qu'il n'y avait plus de yaourt dans le réfrigérateur. C'est un rêve qui, évidemment, est translucide. On se dit que même en étant un psychanalyste très fatigué, Serge Effez, on peut l'interpréter. Il faut quand même vous dire que chaque jour, j'arrive avec un yaourt à la radio que je mange avant l'émission. Alors, Christiane Riedel, qu'est-ce que vous pensez de ce rêve dont j'ai honte, mais j'ai aussi appris dans l'ouvrage de Jean-Paul Tassin qu'on ne disait jamais un rêve au hasard à quelqu'un lorsqu'on lui demandait de l'interpréter.
Écoutez, vous ne savez pas où vous vous engagez. Je vais faire mon travail.
On est en direct, alors, on prend des risques, c'est ça le métier.
Je ne pars pas à partir d'idées préconçues, mais j'essaye de voir ce qu'est d'abord un yogourt ou un yaourt. C'est quoi un yaourt ?
C'est un produit laitier qu'on peut manger le matin, par exemple, avant chaque émission.
Et il est comment, ce yaourt ?
Généralement, il est vert parce que j'achète une marque que je ne citerai pas. Et alors voilà, il est de couleur verte. Enfin, le contenant, hein, le contenu est blanc, comme vous le savez.
Oui,
c'est un yaourt nature.
C'est très dommage que vous ne donniez pas la marque parce que vous n'avez pas le droit de faire de publicité. Néanmoins, très souvent, les rêves font des jeux de mots et la marque va. Il y a un jeu de mots dans la marque qui donne déjà un sens. Le fait qu'il y ait des jeux de mots était connu de toute antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains savaient très bien que les rêves jouent avec les mots. Donc, c'est dommage que vous ne puissiez pas donner la marque. C'est blanc. Bon, un produit laitier, c'est blanc. Et puis encore
c'est agréable de manger des produits laitiers. Il paraît que c'est bon pour la santé.
Oui. Bon, c'est agréable, mais bon, c'est blanc. Vous pouvez me donner la consistance ou donnez-moi des choses qui caractérisent le yogourt. C'est dur, c'est mou.
Non, c'est plutôt mou. Vous avez déjà mangé un yaourt, Christiane Riedel.
Moi, je suis une extraterrestre. Je ne sais pas ce qu'est un yogourt pour vous. C'est comme ça que je travaille. Je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas dans votre tête et dans votre corps. Donc, le yogourt est quelque chose de spécial pour vous que j'ignore. Et j'essaye de, par les associations que je vous demande, j'essaye de voir un peu ce que c'est qu'un yogourt.
Moi, je pensais qu'il y avait des symboliques et des symboles aux rêves et que votre métier de décrypteuse de rêves consistait justement à lire ces symboles.
Oui, tout à fait, mais non pas en faisant du copier-coller. C'est en analysant l'image, en réfléchissant à l'image, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui pour le rêveur. Donc il n'y a aucune signification systématique et chaque fois c'est un nouveau déchiffrage. Le même symbole peut avoir un sens différent chez le même rêveur dans des époques différentes.
Mais alors pour autant, lorsque j'ouvre votre livre, Christiane Riedel, Amour et sexe dans vos rêves, je découvre par exemple au chapitre fruits que lorsqu'on trouve un fruit dans son jardin, dans un rêve bien sûr, et qu'on est célibataire, vous dites le rêve vous invite à vous donner du plaisir à vous-même. Et lorsqu'on trouve les fruits dans le jardin du voisin, quelqu'un dans votre entourage immédiat partagera avec vous, écrivez-vous, les joies du corps.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de déchiffrer le symbole avec les associations du rêveur. Mais dans une société où les gens vivent de la même façon, les images auront souvent le même sens. Donc, dans un premier point, analyser l'image individuellement, il arrive souvent que l'image retrouve un sens général, mais il peut se faire que l'image ait un sens complètement personnel. Et ça, il ne faut pas passer à côté.
Ben voilà, je saurai ce que cela signifie quand je découvrirai un fruit dans mon jardin en rêve. Jean-Paul Tassin, vous, vous avez une toute autre démarche, puisque vous êtes neurobiologiste. Vous signez avec Serge Tisseron les 100 mots du rêve aux éditions donc, des presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je ? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux rêves, Jean-Paul Tassin ?
Je crois que la première réponse la plus simple, c'est que je suis neurobiologiste, donc tout ce qui a trait au cerveau pourrait m'intéresser. Mais il y a une autre réponse, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 8 ans, j'étais au Louveteau. On dormait sous la tente tous ensemble et puis il y avait un des Louveteaux, 8 ans, 9 ans, qui avait reçu un appareil photo avec flash. Et je me suis réveillé avant lui. Et donc j'ai eu l'idée, un peu machiavélique, de lui prendre son appareil photo et de le prendre en photo en train de dormir. Ce que j'ai fait, il y a eu un flash et à ce moment-là il s'est réveillé et il m'a raconté une histoire. Et son histoire, c'était qu'il était dans une maison qui était extrêmement sombre et qu'il cherchait désespérément la lumière. Et au moment où il a réussi à trouver le bouton où il fallait appuyer, il appuie sur le bouton, et là, il s'est réveillé, il y avait un flash. Et ça, j'avais 8 ans, ça m'a paru incroyable qu'il ait pu imaginer que j'allais lui prendre son appareil photo, que j'allais le prendre en flash, et qu'il se réveille juste au moment où je le prends en flash. Je me suis dit, il y a un problème. Et j'ai traîné un peu ce problème pendant des années, jusqu'à comprendre en fait qu'effectivement, comme le Freud a pu le dire, le rêve était rétrograde, c'est-à-dire que le flash l'a réveillé, et que dans les quelques secondes qui ont suivi son réveil, il a fabriqué son rêve qui se termine par le début.
Alors vous parlez de Freud, on reviendra à l'interprétation des rêves tout à l'heure, qui est évidemment à l'origine de cette manière scientifique, je mets ça entre guillemets, on verra le sens qu'il faut lui conférer tout à l'heure. Mais avant de parler de cela, on a étudié le cerveau depuis Freud, on a des méthodes d'imagerie, d'investigation qui nous permettent de mieux connaître ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Que sait-on aujourd'hui sur le rêve, sa durée, la place qu'il occupe dans notre sommeil, Jean-Paul Tassin ?
Mais on n'est pas tous d'accord. Disons que il y a une première hypothèse qui avait été lancée par Michel Jouvet sur le sommeil paradoxal, à savoir que le rêve avait lieu pendant cette phase du sommeil tout à fait particulière. Bon, il se trouve que comment est-ce que Jouvet avait montré ça ? C'est qu'il réveillait les patients. Il réveillait les patients pendant le sommeil paradoxal et ces patients racontaient un rêve. Et en fait, ce qui s'avère maintenant, c'est que en réveillant le patient, il créait le rêve. Donc, puisque plus tard, d'autres équipes ont montré que pendant le sommeil lent, qui est une autre phase du sommeil, si on réveille les patients, ils racontent aussi un rêve. Donc l'idée que le rêve avait lieu pendant une phase particulière a l'air d'être, disons, difficile à faire. Puis la seconde hypothèse, son fonctionnement, c'est qu'en fait, pour avoir un rêve, il faut que vous soyez conscient.
C'est-à-dire
que vous puissiez le raconter, que vous puissiez le vivre consciemment.
C'est la raison pour laquelle on dit, par exemple, que les bébés, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer lorsqu'on voit un bébé dormir, les bébés, selon vous, ne rêvent pas.
Non, ils ne rêvent pas. Ils ont un sommeil agité et ils ne rêvent pas. Ils ont des mouvements musculaires. Ce n'est pas parce que vous bougez dans votre sommeil que vous êtes en train de rêver que vous bougez. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, par rapport à ces deux phénomènes, je ne sais plus ce que je voulais dire. Reprenez-moi.
Dans la fonction du rêve, la place qu'il occupe et éventuellement la manière dont celui-ci existe dans le cerveau, aujourd'hui, on en sait plus et aujourd'hui, on est capable de discuter de sa fonction, même si évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, les spécialistes ne sont pas tous d'accord.
Oui, en fait, c'est le problème, c'est que cette conscience du rêve fait qu'il y a certaines phases pendant le sommeil où certains neurones, qu'on appelle des neurones modulateurs, s'arrêtent. Leur activité diminue régulièrement, ils s'arrêtent complètement. À ce moment-là, on ne peut plus avoir de traitement conscient de l'information. Et ce que l'on sait maintenant, c'est qu'un individu qui s'endort à 10 heures du soir et qui se réveille à 8 heures du matin et qui vous dit « j'ai dormi comme une souche », s'est en fait réveillé 8 fois, de 8 à 10 fois. Il a fait des phases de micro-éveil et c'est pendant ces phases de micro-éveil que l'activité de ces fameuses cellules est réactivé et que là, il y a conscience. Et que donc, pendant cette petite période, la personne peut fabriquer un rêve à partir de ce qu'il était en train de traiter pendant son sommeil.
Le rêve, Serge Éphèse, et son importance dans la psychanalyse, cela remonte à l'interprétation des rêves. Freud y a posé un certain nombre de jalons dans l'analyse du subconscient. L'une des phrases les plus célèbres de Freud, probablement, est celle par laquelle il dit que le rêve est le gardien du sommeil. Que voulait-il dire par là ?
Il est le gardien du sommeil et il est aussi, dit Freud, sans interprétation, le rêve est comme une lettre qui n'a pas été lue. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans le rêve. Chez Freud, il y a effectivement son aspect symbolique qu'il reprend dans l'interprétation des rêves avec ses grands symboles universels dont Christian Redel parlait tout à l'heure, le chapeau comme sexe masculin, l'escalier comme...
Mais vous y croyez, Serge Éphèse ?
Non, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Non, il n'est pas d'accord, Christian Redel.
Non. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que justement, l'apport de Freud a été de montrer la force de l'interprétation. C'est-à-dire ce qui se passe entre un psychothérapeute et son patient. C'est-à-dire justement ce travail de déchiffrage qui est un travail à deux, qui est un travail de rencontre.
Mais moi, si je vous demande ce que c'est qu'un couteau, monsieur, oui. Ou une lance, dites-moi sincèrement en tant qu'homme, est-ce que c'est un sexe ?
Serge Éphèse, allez-y, vous êtes libre, répondez.
Oui. Que tout ce qui est de forme oblongue, mais est-ce que c'est un sexe, monsieur ?
Pas forcément. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être.
Oui,
mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'interprétation du rêve est un travail de déchiffrage qui
individuel.
Se fait à deux et qui concerne chaque individu. Et ça, tout le travail de Freud sur le transfert et l'interprétation est beaucoup plus intéressant que le travail de déchiffrage symbolique des rêves qui est un petit peu tombé aux oubliettes.
C'est dommage.
Le point...
C'est dommage puisque c'est...
C'est dommage
effectivement...
parce que Freud a été dépassé, justement, maintenant. On se rend bien compte...
Dépassé, si vous voulez, ou retravaillé, prolongé...
Maintenant, la France est très centrée sur le travail de Freud. Et elle ne s'est pas ouverte à toutes les autres démarches qui ont eu lieu, en particulier aux États-Unis. Et il y a beaucoup...
Vous êtes très inspiré par d'autres auteurs, Christiane Riedel, comme par exemple Jung.
Jung, ou bien alors Gail Delaney, qui est docteur en psychologie clinique et qui a créé une technique de l'interview qui est extrêmement efficace. Et c'est dommage qu'en France on reste bloqué avec l'idée de Freud sans s'ouvrir à d'autres apports qui permettraient d'approcher le rêve de façon différente.
Je trouve que votre idée n'est pas très différente des idées de Freud. J'ai l'impression que on est simplement, il y a un dialogue qui doit se faire lorsque le rêveur rêve est évidemment dépendant de lui, de son histoire, de la façon dont il a stocké les informations.
Oui, si vous voulez. C'est dépendant de lui, c'est dépendant de son milieu culturel.
Oui.
Et puis, il y a des choses qui apparaissent dans les rêves que le rêveur est incapable d'imaginer.
Alors, on va essayer de voir comment on peut interpréter ces rêves avec ces différentes visions de notre sommeil. On écoute Agnès Obel, Fuel to Fire. Et tout de suite après, on continue à rêver.
Yours I can say, but gone before away. pleuvait. C'était pas l'hiver, plutôt comme un orage d'été.
Il a plu cette nuit, c'est peut-être ça que j'ai entendu.
Peut-être. À un moment, nous étions nus. Enfin, toi, je ne sais pas, mais moi, oui.
Interprétation des rêves aujourd'hui en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effès, de Christiane Riedel, spécialiste de l'interprétation des rêves, qui a notamment publié « Rêves à vivre » et « Amour et sexe dans vos rêves », et Jean-Paul Tassin, neurobiologiste, qui publie avec Serge Tisseron « Les 100 mots du rêve au puf ». Et une question qui nous vient de Samia, qui nous dit qu'elle fait depuis 6 mois énormément de cauchemars. On a parlé du rêve. Est-ce que le cauchemar est un rêve différent ou bien s'agit-il uniquement d'un rêve comme les autres, Jean-Paul Tassin?
Alors j'aurais tendance à dire que c'est un rêve comme les autres, mais qui a une charge émotionnelle qui est un peu différente. Et en fait, ce que l'on pense maintenant, enfin certains d'entre nous, c'est que puisque le rêve, comme j'ai essayé d'expliquer, a lieu au cours de ces petits éveils, c'est qu'en fait, avant de rêver, avant de savoir ce petit réveil, il y a des modifications qu'on appelle neurovégétatives, une accélération cardiaque, une transpiration, un certain nombre de tensions qui peuvent apparaître, qui sont classiques dans le sommeil. Et si elles entraînent un réveil et le rêve qui va en suivre sera plein d'angoisse et donc va donner lieu à un cauchemar. C'est un rêve, mais c'est un rêve avec une charge émotionnelle qui est très négative et qui donne ce cauchemar.
Le cauchemar peut-il être pathologique, puisqu'on se dit parfois, face au cauchemar des enfants, que cela dénote quelque chose d'un état particulier?
Oui, en général, le cauchemar est lié à une angoisse, ça c'est indiscutable. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de médicaments qui déclenchent les cauchemars. Et ces médicaments sont précisément des produits qui modifient l'activité neurovégétative et qui, par conséquent, vont donner lieu à des réveils dans des situations avec accélération cardiaque.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que le rêve révèle évidemment toutes les angoisses qui traversent les enfants et qui traversent tous les enfants. Tous les enfants doivent faire un travail psychique considérable pour comprendre la réalité qui les entoure, notamment la réalité sexuelle, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Quelle est la différence des organes? Est-ce que si j'ai un zizi, est-ce qu'il risque de tomber ou pas? Pour comprendre les relations d'abandon ou de crainte d'abandon.
Parlez souvent de ça quand même, Serge.
Mais oui, vous savez, je suis indécrottable. Les psychanalystes freudiens sont indécrottables par rapport à la
sexualité. Il y a que cela dans les rêves où il peut y avoir d'autres choses.
Il y a aussi les peurs d'abandon, les peurs de dévoration. Un petit enfant qui rêve d'un ogre qui va le dévorer, c'est une peur de l'autorité paternelle ou maternelle qui risque d'être trop forte vis-à-vis de lui. Bref, la façon dont on agence la réalité pour l'intégrer psychiquement et dans son inconscient, c'est toujours angoissant pour tous les enfants. Et c'est assez normal que les enfants fassent des cauchemars pour pouvoir l'intégrer.
Christiane Riedel.
Maintenant, vous avez des cauchemars qui n'ont rien à voir avec l'enfance, parce que le cauchemar vient vous signaler que vous avez un comportement dont vous ne vous rendez pas compte et qui vous est nuisible. Alors, le rêve vient pour vous dire, attention, là, tu vas trop vite. Tu roules trop vite en voiture, par exemple. Et après,
tu n'auras bientôt plus de points.
Et après, il rêve qu'il a un accident.
Ni yaourt.
Il rêve qu'il a un accident. Donc, le rêve signale à la personne qu'elle veut aller trop vite dans sa vie, qu'il y a des étapes qu'elle ne respecte pas, qu'elle veut doubler les autres, elle a trop d'ambition, et il faut qu'elle fasse un travail pour apprendre la patience. Et si elle ne fait pas ça, elle va avoir un accident, il va y avoir un clash, et ça sera très nuisible. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'enfance.
Oui. Et puis vous avez des cauchemars. Des cauchemars des enfants.
Des enfants. Hein, et puis vous avez des cauchemars qui viennent vous prévenir que vous êtes dans une situation très dangereuse, extérieure. Et qu'il faut.
Il faut veiller à cela. Nous avons Jasmine au téléphone qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jasmine.
Bonjour à toute l'équipe. Moi, j'ai eu un rêve récurrent pendant des années que je dévalais un escalier à toute vitesse, et que ça soit sur la rampe ou l'escalier en lui-même. Il n'y avait personne
qui vous arrêtait
était derrière moi. C'était vraiment une action individuelle.
Mais est-ce que ça se terminait mal, Jasmine ?
J'en ai pas souvenir, je dévalais tout simplement.
Donc c'est uniquement un rêve de vitesse, Jean-Paul Tassin.
Oui, écoutez,
que
moi,
peut-on dire à Jasmine ?
J'ai pas. Enfin bon, il y a une interprétation évidente des risques qu'elle est en train de courir dans sa vie. Mais ce n'est pas ça mon problème. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment se fabrique le rêve. C'est une des raisons qui m'a intéressé. Et en l'occurrence, on commence à savoir que le système nerveux central travaille selon deux modes de fonctionnement. D'une part, un mode extrêmement rapide qu'on appelle analogique, où on fait des liens qui ne dépendent pas du temps. Et un second type de traitement qui est cognitif, qui nous permet de faire des liens entre les choses qui sont différées dans le temps. Et ce que l'on fait à l'occasion du rêve, c'est que l'on va récupérer ces éléments analogiques qui vont brutalement passer en cognitif. Et donc, c'est ce que nous expliquent tous les rêveurs, c'est qu'ils ont rêvé quelque chose qui est en fait, qui correspond à la façon dont ils ont traité l'information de façon analogique. C'est un peu compliqué, mais il fallait que je le dise au moins.
Christiane Riedel, le rêve de Jasmine, dévaler une rampe à toute vitesse.
Bah, il faudrait déjà lui poser des questions. Mais
Jasmine, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, toujours.
Bon, qu'est-ce que c'est dévaler ?
Non, vraiment, descendre un escalier à toute vitesse.
À toute vitesse, alors qu'il y a des marches. Un escalier, il y a des marches. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des marches ?
Eh bien, je descends.
Vous voulez ?
Descendez.
Oui,
je vais descendre.
Et vous descendez, une jambe à gauche, une jambe à droite, un pied à droite, un pied à gauche. Dévaler, par rapport à descendre un escalier, c'est quoi ?
Je ne comprends
vite.
Pas trop votre...
Si vous dévalez un escalier, vous allez à toute vitesse, mais vous ne faites pas attention aux différentes marches, apparemment.
Non, du tout. Non, ce n'est pas une à une.
Voilà.
Ça allait de 2 à 3 à 4.
Donc, il y a des étapes que...
De saboter des escaliers.
Voilà. Donc, il y a des étapes que vous sautez pour aller plus vite.
Ah, c'est possible. C'est
voilà.
Possible.
Donc, la question est-ce que vous en étiez satisfaite dans le rêve, ou est-ce que cela vous donnait un sentiment de malaise ?
Malaise, oui, certes, mais ce n'était pas un cauchemar. Voilà.
Oui, donc le rêve vous dit, attention, tu dois descendre. Qu'est-ce que c'est que descendre ? Vous vous placez trop haut, probablement le haut. Là, je suis obligée de travailler avec
ce que
j'ai appris. Bien sûr, on comprend
ce que vous êtes en train de faire, Christiane. Est-ce que vous voulez dire que par ce type de rêve, parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire une consultation complète avec Jasmine, est-ce que vous voulez dire qu'avec ce type de rêve, par exemple, il peut y avoir une mise en garde sur le fait que l'on va trop vite dans son existence ou
Elle doit descendre d'un niveau pour aller plus bas. Il faudrait voir ce que c'est que le Val. Et elle, au lieu de descendre marche à marche, elle y va à toute vitesse, elle est peut-être un peu trop rapide.
Voilà. Lénora Krief, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé voir en laboratoire comment on pouvait rêver sans dormir, puisque apparemment c'est possible. C'est ce que vous êtes allé voir auprès d'un praticien du rêve éveillé dans son laboratoire personnel, et vous avez découvert une autre facette du rêve.
Oui, développé par le psychothérapeute Georges Romé dès 1980 sur la base des travaux de Georges Desoiles, créateur du rêve rêve éveillé. Le rêve éveillé libre est une méthode thérapeutique qui pourrait résoudre des blocages psychologiques grâce au symbole des rêves. Durant près de 20 ans, Georges Romé a décrypté plus de 6000 rêves et référencé quelques 500 symboles dans un ouvrage, le Dictionnaire de la symbolique des rêves. Et pour mieux m'en rendre compte, j'ai assisté à un rêve en direct dans le cabinet du psychoanalyste Gérard Tacquois à Paris. Face au même dispositif que chez le psychanalyste, le patient s'allonge sur le divan et, après un premier échange, s'abandonne progressivement dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil.
Tu te sens bien pesé sur le canapé, depuis les talons, les mollets, les épaules, le cou et la tête qui pèsent. Porte ton attention sur ta respiration et quand tu le désireras, tu me feras part de tout ce qui se présente à toi, de quelque nature que ce soit.
Il y a un moulin à vent qui s'installe. Il y a un cheval assez paisible qui passe par là. Je regarde particulièrement la couleur du cheval qui est café au lait et je trouve très beau et on dirait un cheval d'Indien. Et du coup, je me retrouve en Amérique au temps des Indiens, mais du côté des Indiens. Il y a une forme d'union qui se crée. Il y a le chef de village, il y a peut-être le chaman qui est là, il y a d'autres personnages de la tribu. Et je retrouve le cheval qui revient me voir et qui va m'emmener là où il faut que j'aille. Je ne sais pas où c'est, mais lui, il sait.
Terminé ?
Oui.
Respire bien, reprends contact avec notre environnement, étire-toi à ton rythme. Alors, ça dit quoi le moulin ? Qu'est-ce qu'il fait le moulin ? Quelle est sa fonction ?
Moudre le grain.
Transformer. Transforme le blé en farine.
Oui.
Il transforme l'eau, la puissance de l'eau, le flux de l'eau en énergie, oui. Par exemple. Et d'autres choses encore.
Vous suivez cette patiente depuis longtemps ?
Depuis, je crois, mars 2012. On a eu des séances toutes les semaines, après on a espacé, et là elle revient à la demande.
Mais il s'agit d'un rêve ou d'un état de rêverie ?
Il s'agit de laisser parler l'imaginaire. Que ce soit dans les rêves nocturnes ou dans les rêves éveillés ou dans les rêveries, c'est l'imaginaire qui est là.
Comment vous définiriez alors cet état de rêve éveillé ?
Dans le rêve éveillé, on crée des conditions pour que le mental soit moins présent. On fait une petite relaxation. Et à ce moment-là, comme Jung l'a défini, il y a des choses qui arrivent, du matériel qui arrive, et c'est lié à la créativité du sujet, c'est lié à l'inconscient. Et ça fonctionne, comme Jung l'a défini aussi, selon le principe des associations libres. On laisse vraiment la créativité de l'inconscient et de l'imaginaire parler. On n'intervient absolument pas.
La non-directivité, elle est favorable à l'analyse pour vous ?
Absolument. D'après Jung, le processus d'individuation ne peut pas être contrôlé. Il y a des forces autonomes dans l'inconscient qui font un chemin de l'imaginaire qui est complètement spécifique et libre et qui est unique pour la personne qui rêve.
Mais votre patiente, durant son rêve, elle parlait de la rencontre avec un chaman, avec des sociétés traditionnelles. Il semble y avoir quand même une dimension assez spirituelle dans la démarche du rêve éveillé.
Alors, dans les cures, il y a des séquences et il y a des séries de rêves qui sont de type analytique, c'est-à-dire qui révèlent la problématique du patient. Et puis, à un moment donné, les problèmes personnels, on va dire, sont réglés et il y a une ouverture à la spiritualité. Voilà, tout à fait.
Quelle différence faites-vous entre l'état du rêve éveillé et l'état d'hypnose, par exemple ?
Je pense que dans l'hypnose, premièrement, le patient intervient moins, ou en tout cas le moi du patient intervient moins. Je crois que dans cette méthode, c'est vraiment l'équilibre entre la présence du moi et la présence de l'inconscient. Les deux sont là et se parlent à travers le patient.
Enseigné depuis plus de 20 ans et reconnu par la Fédération française de psychologie depuis 2005, le rêve éveillé libre a son école, l'EREL, qui propose différents cursus allant de l'initiation à la méthode jusqu'à la profession de psychoanalyste.
Merci Lénora Krief. Jean-Paul Tassin, qu'est-ce que ça vous évoque, le rêve éveillé ?
Écoutez, enfin, c'est plusieurs choses, mais un des éléments fondamentaux, c'est que lorsque nous sommes éveillés, il y a des afférences sensorielles qui arrivent sur le cerveau et que ces afférences sensorielles, la vue, l'ouïe et tout ce que vous pouvez imaginer, font que le cortex est dans une situation de contrôle. Et qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de faire disparaître ces afférences sensorielles, la personne est allongée, j'imagine, il n'y a pas de bruit, là, il n'y a pas d'intervention, à ce moment-là, ce contrôle cortical qui est lié à la présence des afférences sensorielles diminue. Et vous avez à ce moment-là des arrivées qu'on appelle sous-corticales, des montées sous-corticales qui vont vers le cortex. Et là, il va pouvoir y avoir ces fameuses associations libres qui sont utilisées par les psychothérapeutes et par les psychanalystes lorsqu'ils sont en traitement psychanalytique.
Non, vous ne rêvez pas, vous êtes sur France Inter. On écoute Chachacha, Gaëtan Roussel. Et tout de suite après, on continue à rêver.
Vos questions sur franceinter.fr ou sur le compte Twitter de l'émission Service Public FI.
Un an dîner, nuit blanche et petit déjeuner. Deux ans dîner, nuit blanche, mais là je dois filer. Trois ans dîner, dormir, laisse, ça va revenir. Quatre ans la panne et dire que l'on n'a pas ouvert les vannes. Cinq ans tout semble ici, perdu mes adieux, mon amour. Six ans tout semble éteint, au hasard je vais fuir. Huit ans les manœuvres, sortons la grande échelle. Huit ans nous voilà à pied d'œuvre, monter les décibels. Neuf ans dîner, nuit blanche et petit déjeuner. Dix ans dîner, nuit blanche, mais là je dois filer. Je dois filer, 11 ans tout reste encore possible. Nous voilà invincibles, 12 ans je file, précipite, vite, 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 vite. 13 ans les seuls êtres censés au beau milieu des fous. 14 ans dîner, dormir laisse, ça va revenir.
Service public sur France Inter, l'interprétation des rêves. Aujourd'hui, en compagnie de Serge Effès, de Jean-Paul Tassin, neurobiologiste qui publie « Les 100 mots du rêve » et Christiane Riedel, spécialiste de l'interprétation des rêves, qui publie « Rêves à vivre et amour et sexe dans vos rêves ». Chantal nous dit qu'elle rêve, qu'elle est dans un ascenseur qui ne s'arrête jamais. Jean-Paul Tassin, ça vous rappelle le rêve de l'ascenseur ?
Oui, exactement. Vous parliez tout à l'heure, madame, de jeu de mots. Le rêve qui fait des jeux de mots, c'est l'histoire de deux jumelles dont l'une est décédée à la naissance et l'autre jumelle a rêvé quand elle était adulte en permanence et sous forme de cauchemar d'un ascenseur. À chaque fois qu'elle voyait un ascenseur, elle faisait un cauchemar. Et l'interprétation, on dit que c'est une patiente de Lacan, l'interprétation c'est qu'elle était l'ascenseur et qu'elle était responsable de la mort de sa sœur. L'ascenseur qui devenait quelque chose qui l'angoissait. L'ascenseur est devenu angoissant et était le symbole de son angoisse. Vous voyez le jeu de mots.
Plus généralement, il y a énormément...
dans l'ascenseur. Vous avez ascenseur privatif.
Oui, bien sûr.
Pas de ceinture. Donc ça, il faut regarder avec...
Oui, c'est la polysémie du rêve. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'interprétation est différente pour chacun.
Exactement.
Qu'elle peut porter sur le mot même, sur le signifiant du rêve, comme sur l'imaginaire qui peut l'accompagner.
Ce qui est étrange, Christiane, c'est qu'il y a énormément de rêves qui nous sont racontés par nos auditeurs, qui sont des rêves de vitesse. Béa nous dit par exemple, j'allais très très vite, je tombais et je m'écrasais sur le sol au moment où je me réveillais. Ce sont des rêves, semble-t-il, récurrents parmi les témoignages des auditeurs.
Ce genre de rêve arrive à des personnes qui ont une certaine forme d'ambition, un objectif qu'elles veulent atteindre rapidement. Et le rêve leur montre donc qu'elles vont trop vite. Il y a autour de ces personnes, il faut qu'elles prennent conscience qu'il y a des paramètres qui existent, les autres existent, les autres ont d'autres objectifs et il faut respecter aussi tout cet entourage. Donc c'est pas toujours foncer mon objectif et moi, il faut avoir de la considération pour les autres, il faut avoir aussi de la patience. Et puis le rêve lui dit de tomber, c'est un peu comme le rêve de descendre dans des vallées de l'escalier, il faut rester terre à terre et marcher sur le chemin de la terre, pas à pas, et non pas toujours vouloir foncer.
Jean-Paul Tassin, en lisant votre Que sais-je, on se rend compte qu'il reste encore énormément de choses à découvrir sur le rêve, malgré donc les progrès qui ont été réalisés dans l'exploration du cerveau. Tout n'est pas du tout clair dans le rêve.
Tout n'est pas clair parce que ça dépend pour qui. Moi, j'ai l'impression que c'est clair pour moi. Mais effectivement, il y a
encore un certain nombre de choses que l'on ne sait pas. Le moment où l'on rêve dans le sommeil, la fonction du rêve demeure encore largement discutée.
À discuter, mais pour moi, la fonction du rêve, c'est justement ce que disait Freud, c'est-à-dire le gardien du sommeil. C'est que normalement, il risque d'y avoir un micro-éveil, les fameux micro-éveils dont on parlait tout à l'heure. Et ce micro-éveil, eh bien, si l'on veut se rendormir, il faut que le cerveau trouve une façon d'amortir ce réveil, puisque les neurones qui créent le micro-éveil ne peuvent pas rester arrêtés en permanence pendant la nuit. Il faut qu'ils se réactivent de temps à autre. Donc, ce micro-éveil risque d'entraîner un réveil et, par conséquent, le rêve va exister pour nous permettre de nous réveiller. Si nous nous réveillons et que nous faisons un rêve, c'est qu'en fait, le rêve n'a pas fait son boulot.
Christiane Riedel, des questions sur les rêves prémonitoire, est-ce que selon vous cela peut exister?
Ça existe, il y en a beaucoup. Le rêve va souvent annoncer quelque chose qui va se produire. Par exemple, dernièrement, une de mes élèves a reçu le rêve. Le rêve lui disait le nom de la personne qui allait acheter son appartement.
Donc, alors, j'imagine, Serge Effez, vous qui êtes plus rationaliste que ce type...
Pas pour les rêves, parce que les rêves, c'est effectivement un domaine tout à fait irrationnel, mais explicable. C'est-à-dire que le rêve permet des déconstructions...
C'est ça, être rationaliste, d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait. Ça permet des déconstructions et des reconstructions. Donc, si vous voulez, on découpe un peu les chaînes d'associations qui sont celles qui nous sont habituelles dans notre vie courante, les ruminations habituelles, justement la pensée extrêmement rationnelle de notre vie courante. On découpe tout ça en petits morceaux et on les agence différemment. Et donc, ça permet déjà de trouver un certain nombre de ressources qu'on ne peut pas trouver à l'état d'éveil. Et effectivement, parfois, d'être dans des prémonitions, parce que comme on agence les choses différemment, ça nous propulse vers le futur plutôt que de nous ramener au passé.
Serge nous demande, y a-t-il moyen de se souvenir de ses rêves, Jean-Paul Tassin? Et on se demande toujours si l'on oublie ses rêves ou pas.
Oui, alors la meilleure méthode, c'est de les noter au réveil. Parce qu'effectivement, si vous attendez le lendemain matin, vous avez toutes les chances de l'avoir oublié. Il faut bien voir que le rêve n'est qu'une accumulation, une suite d'images. Vous avez 5-6 images. Avec ces 5-6 images, vous fabriquez un scénario. Et ce scénario, c'est ça ce qui va devenir votre rêve. Et donc, vous le fabriquez après. Il n'est pas immédiat. Voyez, il y a plusieurs niveaux dans le rêve. Puis après, vous le racontez à autrui, c'est encore un autre problème.
Marilyn nous parle de son petit garçon qui a des terreurs nocturnes. Serge Effez, à partir de quand faut-il s'inquiéter des terreurs nocturnes, des rêves éveillés ou pas de son enfant?
C'est pas tant à un âge que plutôt une fréquence, et surtout si ça empêche ses enfants de dormir et d'avoir un sommeil apaisé et suffisamment long. Donc c'est là que les parents doivent commencer à s'inquiéter.
Christiane Riedel.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait monsieur Jean-Paul Tassin. Quelquefois, le rêve vous réveille. Et il n'est pas le gardien du sommeil. Et il vous annonce quelque chose que vous devez regarder de façon bien claire et bien lucide, parce qu'il y a un danger. Par exemple, vous avez des rêves qui vous annoncent que vous avez un cancer, des rêves qui vous annoncent que votre mère vient de mourir. Ce sont des rêves réels. Ça existe par milliers.
Mais ce sont des rêves qui ont échoué.
C'est-à-dire
Ils vous ont empêché de vous... Ils n'ont pas réussi à vous permettre de vous rendormir.
Mais ils vous ont prévenu que vous aviez un cancer, et vous avez vu le médecin, et vous avez été sauvé. Et des rêves comme ça, il y en a des milliers, monsieur. Quand on examine les rêves, moi j'en mets sur mon blog,
non,
j'en ai dans
Aristote
mes livres.
Aristote vous a expliqué qu'effectivement, il l'a montré qu'on pouvait... Oui, vous voulez que je m'arrête?
Non,
Aristote nous a expliqué qu'en fait, effectivement, on pouvait avoir des prémonitions par rapport à son corps. Vous pouvez rêver que vous avez un beefsteak cru dans l'estomac et en fait, vous vous rendez compte que vous avez une hépatite.
Nous avons fait un mauvais rêve, malheureusement, il n'y a plus de temps et donc nous devons conclure. Je vais juste rappeler le titre de vos ouvrages, Christiane Riedel, Amour et sexe dans vos rêves et Rêves à vivre, et Jean-Paul Tassin avec Serge Tisseron, Les 100 mots du rêve. Voilà, on pourra continuer à rêver en lisant vos ouvrages respectifs. Voici maintenant le mot du psy.
Bon, maintenant Isabelle, on pourrait déterminer un cadre pour nos rencontres. Tu serais d'accord pour venir ici une fois par semaine?
C'est combien?
70 euros.
C'est tout?
C'est mon tarif.
Serge Effet, cette semaine, vous souhaitez revenir sur le palmarès des Césars dont les lauréats vous semblent particulièrement faire écho à l'actualité.
En effet, Guillaume, on pourrait dire que la fameuse théorie du genre qui fait tant polémique actuellement s'est retrouvée au cœur du palmarès des Césars 2014. D'abord parce que deux films emblématiques de l'année 2013 traitant des passions homosexuelles ont été nommés aux Césars dans les catégories les plus prestigieuses pour les interprètes de La vie d'Adèle de Kechiche et L'inconnu du lac de Guy Roddy. Mais surtout la consécration de Guillaume Gallienne pour son film Guillaume et les garçons à table rend hommage à un acteur et un réalisateur qui bouscule avec énergie et optimisme un bon nombre d'idées reçues sur les questions de genre et de sexualité. Dans ce film farouchement autobiographique et largement plébiscité par le public, Gallienne, on le sait, relate l'histoire d'un garçon-fille qui s'extirpe de tous les carcans de ses déterminations sociales, familiales et sexuelles.
Et alors vous, Serge, comment vous avez interprété cette histoire?
L'argument du film est tout entier dans son titre. Si l'on convoque les garçons et Guillaume à table, c'est peut-être que Guillaume n'est pas un garçon. Ce refus de la virilité, à cet écart avec la logique familiale, il faut trouver une raison pour rendre son comportement explicable. Guillaume est sûrement homosexuel. Du reste, Gallienne le dit lui-même, il s'est toujours senti très poreux à la féminité, sans se sentir femme, ni sans avoir la moindre envie de changer de sexe. Car Guillaume est avant tout fasciné par les femmes, à commencer par sa mère, au point de se sentir habité, possédé par elle, comme on peut être possédé par un fantôme ou un démon. Il a laissé cette femme s'implanter littéralement dans son esprit et dans son corps, au point de prendre sa voix, de porter ses vêtements, de reproduire ses moindres gestes. Or, cette mère, contrairement aux idées reçues, ne se montre ni complice, ni attendrie par cet amour filial dévorant, alors que le père est comme souvent exaspéré par ce fils non conforme à ses désirs et que les frères cruels ne se privent pas de le traiter de tarlouse ou de tapette. Le héros du film rejoint ici la biographie de son auteur qui, selon ses dires, à 12 ans s'est pris un mur, une terrible dépression nerveuse. Les psys, nous dit-il, ont sauvé ma vie et assuré ma survie.
C'est pour ça que vous avez aimé ce film. Évidemment, et on retrouve Guillaume dans la trajectoire habituelle des jeunes homosexuels, selon vous, qui adorent leur mère, déçoivent leur père et subissent les moqueries et le rejet de leurs camarades.
Et jusqu'à du reste se suicider 10 fois plus que les autres ados. Et c'est justement ici que le film est le plus intrigant. Guillaume tente sans enthousiasme l'homosexualité, comme s'il fallait se montrer jusqu'au bout conforme à ce destin féminin. La révélation lui viendra d'une femme dont il tombe amoureux et avec qui il décidera de faire sa vie. Certaines associations gays se sont indignées de ce coming out hétérosexuel, comme s'il s'agissait d'un happy end où tout rentre dans l'ordre et où la norme retrouve ses droits. Bref, une réconciliation nationale. Je pense qu'ils ont tort, car en donnant en pâture sa vie personnelle au grand public, la démarche de Gallienne participe d'un véritable décloisonnement des genres et des sexualités. Un homme, tout comme une femme, peut occuper tout le spectre des attitudes, des goûts, des comportements qualifiés des plus féminins aux plus masculins. Les choix sexuels peuvent être homo, bi ou hétéro et pourquoi pas lesbien. Toutes ces trajectoires se recoupent mais ne s'ordonnent pas dans des cases où chacun de nous devrait se trouver assigné. Contrairement au slogan de la Manif pour tous, « Touche pas à mon stéréotype », c'est la liberté pour tous de choisir son type et son destin qui est ici magnifié.
Merci Serge Effet, à la semaine prochaine.
Le grand bazar de service public. Le grand bazar. Le grand bazar. Service public, le grand bazar.
donnez-nous la lumière. Alexandre Lazerge, bonjour. Vous
bonjour,
souhaitez
Guillaume.
Nous parler d'une lampe des rêves. Bon, allez-y, qu'est-ce que c'est une lampe des rêves?
Oui, parce qu'à la rubrique objets, quand on rêve, les objets s'animent et deviennent vivants. Enfin, bon, c'est quand on rêve hein, seulement. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça arrive aussi à des gens très bien, comme par exemple à John Lasseter. Vous savez, cet homme qui a bouleversé le cinéma d'animation avec la société Pixar.
Ouais, c'est ça, c'est le réalisateur de Toy Story, Cars,
voilà.
Là où on le connaît.
Oui, oui. Et bien lui, il rêvait de lampes qui jouent au ballon. Il en a même fait un petit film en images de synthèse. Un clip muet de 2 minutes qui met en scène la lampe d'architecte qui était posée sur son bureau. Et c'est ce petit film, intitulé Luxo Junior, qui a montré les possibilités offertes par le numérique en matière d'animation. Avant, bien sûr, de mener au succès que l'on sait. Depuis, la petite lampe Luxo est devenue le logo du studio et on la voit à chaque générique de film Pixar. Vous allez reconnaître quand la lampe sautille et écrase le « i » du nom Pixar. Écoutez. Voilà, c'est brillant, non?
Oui, Alexandre, mais vous savez que les gens normaux ne rêvent pas de lampes de bureau.
Ah bon? Oui, mais là, attention, hein, il ne s'agit pas de n'importe quelle lampe, mais du modèle L1 de la marque norvégienne Luxo. C'est une lampe articulée avec des ressorts, designée par Jacob Jacobsen et vendue depuis 1937 à plus de 25 millions d'exemplaires. Hein, vous vous rendez compte?
Ah, c'est beaucoup, effectivement.
Voilà. Mais bon, je peux comprendre que vous ne vous laissiez pas facilement emporter par le rêve en regardant une lampe. Il faut vous mettre en condition, Guillaume. Par exemple, en adaptant la lumière à votre humeur. C'est très tendance, hein, la luminothérapie. La marque Philips est même championne des luminaires dont l'intensité varie de très clair à tamisé pour vous aider à vous relaxer. Il s'agit, si vous voulez, d'un disque lumineux blanc de 20 cm de diamètre qui peut être programmé pour diminuer la quantité de lumière pendant quelques heures avant le coucher. Ça aide à bien se reposer et à mieux rêver. Ça coûte entre 90 et 130 euros selon les modèles, évidemment. Voilà.
Mais on peut quand même lire dans son lit avec cette lampe, Alexandre?
Ah bah oui, évidemment. Mais la lumière est plus douce, ça apaise. Et vous qui aimez lire, Guillaume, pour vous, j'ai encore mieux. J'ai la lampe livre, voyez, Lumio, elle s'appelle. C'est un gadget américain tout nouveau et poétique. Ça se présente comme un livre, un peu plus grand qu'un recueil de la Pléiade, avec une belle couverture marron, imitation bois. Et quand on l'ouvre, les feuilles blanches forment un accordéon et s'illuminent comme un lampion.
C'est oh, beau. Comme c'est beau, c'est vraiment très très beau.
Oui, Guillaume, en voilà du rêve. Le livre cache des ampoules LED qui s'allument lorsqu'on l'ouvre. Et ça marche longtemps, en plus, jusqu'à 8 heures d'affilée. Bon, puis la batterie se recharge en quelques heures avec une prise USB et un fil sur un
grâce
ordinateur.
Grâce à un adaptateur voilà. Que vous allez acheter exprès, qu'ensuite, qui ne servira plus à rien. C'est super.
Si. Bon, ça coûte 120 euros sur le site
Génial.
Hello Lumio. Voilà, vous aurez l'adresse sur le site de l'émission. Et voilà, Guillaume, vous pouvez aller vous coucher. Et maintenant, faites de beaux rêves.
Non, il faut encore que je travaille. Je dois faire la désannonce. Vous savez, c'est ainsi qu'on appelle les remerciements. Alexandre, merci. À la semaine prochaine. Et donc, merci aux rêveuses Aroma Beaufray, Alice Jacquin et Lydie Biel, Alexia Rivière, avec Stéphanie Texier à la réalisation. La musique qui a été choisie par Thierry Dupin. Et à la technique, aujourd'hui, il y avait Martin Guénard et Patrick Henry. Tout de suite après le flash, vous retrouvez André Manoukian et qu'on va tous y passer. Demain, jeudi, dans Service Public, on continue sur le rêve, puisqu'il s'agira des amours qui durent, amour toujours. Allez, on se donne rendez-vous, même lieu, même heure, demain à 10h.